Chapitre 22. Lueur dans la tempête. La forme de tempête éveille, dit-on, l'ire et le courroux des cieux. Craignez sa puissance et ses dons, car elle rendra leur nuit aux dieux. Couleur du sang, rouge est son sprène. Craignez qu'elle touche à son terme. Extrait du chant des vents de ceux qui écoutent, 4e couplet. Kaladin observait les volets des fenêtres. Le mouvement survenait par à-coups. D'abord le calme. Oui, il entendit un hurlement lointain, celui du vent traversant une cavité, mais rien à proximité. Un frémissement. Puis, le bois qui s'ébranlait violemment dans son châssis. Un tremblement furieux, et l'eau qui s'infiltrait par les jointures. Il y avait quelque chose là dehors, dans le sombre chaos de la tempête majeure, quelque chose qui s'agitait et cognait contre la fenêtre pour chercher à entrer. Des lueurs clignotaient, scintillant à travers les gouttes d'eau. Un nouvel éclair. Puis, la lumière s'attarda, juste à l'extérieur, régulière comme la lueur des sphères, et d'un faible éclat rouge. Pour une raison qui lui échappait, Kaladin eut l'impression de voir des yeux. Cloué sur place, il leva la main vers le loquet afin de l'ouvrir pour mieux regarder.
« Il faut vraiment que quelqu'un répare ce volet mal fixé !»
commenta le roi Elokar, contrarié. La lueur s'estompa. Le cliquetis cessa. Kaladin cligna des yeux et baissa la main.
« Il faudra qu'on me rappelle de demander à Nakal de s'en occuper !»
poursuivit Elokar, qui faisait les 100 pas derrière son canapé.
« Le volet ne devrait pas avoir de fuite. C'est mon palais, pas la taverne d'un village !»«
Nous allons nous assurer que ce soit fait, » répondit Adoline. Assis dans un fauteuil près de la cheminée, il parcourait un livre rempli de croquis. Son frère occupait le fauteuil voisin, joignant les mains sur son giron. S'il était endolori par son entraînement, il n'en montrait rien. Il avait tiré une petite boîte de sa poche et passait son temps à l'ouvrir, à la retourner dans sa main, à en frotter un côté, puis à la refermer avec un déclic, encore et encore et encore. Ce faisant, il regardait dans le vide. Il semblait le faire souvent. Elokar continuait à décrire des cercles. Idrine, chef de la garde royale, se tenait à côté du roi, le dos raide, ses yeux verts braqués droit devant lui. Il avait la peau sombre pour un Aléti, peut-être possédait-il un peu de sang azéen, et portait une barbe fournie. Sur une suggestion de Dalinar, les hommes du pont 4 s'étaient relayés pour monter la garde avec ses hommes. Kaladin avait été, jusqu'à présent, impressionné par cet homme et par l'équipe qu'il dirigeait. Cependant, lorsque sonnaient les cors annonçant une course au plateau, Idrine se tournait vers eux et son expression se faisait nostalgique. Il voulait être là, dehors, et se battre. La trahison de Sadeas avait rendu une grande partie des soldats du camp tout aussi impatients, comme s'ils rêvaient d'une occasion de prouver la puissance de l'armée de Dalinar. Les grondements de la tempête leur parvinrent de nouveau. C'était étrange de ne pas avoir froid lors d'une tempête majeure. Le baraquement était toujours frisquet. Cette pièce-ci était bien chauffée. Quoique pas par un feu, la cheminée comportait un rubis gros comme le poing de Kaladin, qui aurait pu payer de quoi nourrir sa ville natale pendant des semaines. Kaladin quitta la fenêtre et se dirigea nonchalamment vers le foyer, sous prétexte d'inspecter la gemme. En réalité, il voulait jeter un coup d'œil à ce que parcourait Adoline. Beaucoup d'hommes refusaient même de regarder des livres, qu'ils considéraient comme trop peu masculins, mais ça ne semblait pas déranger Adoline. Curieux. Tandis qu'il approchait de la cheminée, Kaladin passa devant la porte d'une pièce latérale où Dalinar et Navani s'étaient retirés à l'arrivée de la tempête. Kaladin avait voulu poster un garde à l'intérieur. Ils avaient refusé. « De toute manière, c'est le seul accès à cette pièce, » songea-t-il. « Il n'y a même pas de fenêtre. » Cette fois, si des mots apparaissaient sur le mur, il saurait avec certitude que personne ne s'était infiltré dans la pièce. Kaladin se pencha pour inspecter le rubis de la cheminée, maintenu en place par un montant de fil de fer. Il dégageait une chaleur puissante qui fit perler la sueur sur le visage de Kaladin. Bourrasque, ce rubis était tellement gros que la flamme qui l'infusait aurait dû l'aveugler. Au lieu de quoi, il pouvait scruter ses profondeurs et voir la flamme danser à l'intérieur. Les gens croyaient que l'éclairage provenant des gemmes était calme et régulier, mais ce n'était que par contraste avec la lueur vacillante des flammes de bougies. Si l'on regardait au plus profond de l'une d'entre elles, on voyait la flamme bouger, selon le schéma chaotique d'une tempête. Il n'y avait rien de calme là-dedans, ni d'une brise, ni d'un murmure.
Vous n'aviez encore jamais vu de fabriaux de chauffage, j'imagine,
demanda Rinarin. Kaladin lança un coup d'œil vers le prince, chaussé de lunettes. Il portait un uniforme de clarissime aléti, comme celui d'Adoline. En réalité, Kaladin ne les avait jamais vus porter autre chose, à part la cuirasse d'éclat, bien sûr. Non, en effet, répondit Kaladin.
C'est une nouvelle technologie, expliqua Rinarin, qui jouait toujours avec sa petite boîte métallique. Ma tante a fabriqué celui-ci elle-même. Chaque fois que je me retourne, j'ai l'impression que le monde a changé.
Kaladin émit un grognement.
Je connais cette impression.
Une partie de lui brûlait d'aspirer la flamme de cette gemme. Un acte de bêtise pure. Il devait y en avoir assez là-dedans pour le faire briller comme un feu de joie. Il baissa les mains et longea le fauteuil d'Adoline. Les croquis du carnet d'Adoline représentaient des hommes vêtus d'habits élégants. Les dessins étaient excellents, détaillant leur visage aussi finement que leur tenue. Un ouvrage de mode ? Interrogea Kaladin.
Il n'avait pas eu l'intention de parler, mais les mots étaient sortis tout seuls.
Vous passez la tempête majeure à chercher de nouveaux habits ?
Adoline referma le livre d'un coup sec.
Mais vous ne portez que des uniformes, ajouta Kaladin perplexe.
Est-il vraiment nécessaire que vous soyez là, porte-pont ?
Demanda Adoline d'une voix insistante.
Il semble peu probable tout de même que quiconque s'en prenne à nous pendant une tempête majeure.
Le simple fait que vous formuliez cette supposition, riposta Kaladin, justifie ma présence. Quel meilleur moment y aurait-il pour une tentative d'assassinat ? Les vents devraient couvrir les cris, et les renforts tarderaient à arriver puisque tout le monde se serait abrité pour attendre la fin de la tempête. Il me semble que c'est l'un des moments où Sa Majesté a le plus besoin de garde. Le roi s'arrêta de faire les 100 pas et tendit le doigt vers lui.
Ça me paraît logique. Pourquoi personne ne m'a-t-il jamais expliqué ça ?
Il se tourna vers Idrine, qui demeura stoïque. Adoline soupira.
Vous pourriez au moins nous laisser en dehors de tout ça, Rinarin et moi,
dit-il tout bas à Kaladin. Il est plus facile de vous protéger quand vous êtes tous ensemble, clarissime, répondit Kaladin en s'éloignant. Et puis vous êtes capable de vous défendre l'un l'autre. Dalinar avait de toute manière eu l'intention de rester avec Navani pendant la tempête. Kaladin s'approcha de nouveau de la fenêtre pour écouter passer l'orage à l'extérieur. Avait-il vraiment vu ce qu'il avait cru voir lors de la tempête où il était attaché dehors? Un visage, aussi grand que le ciel. Le père des tempêtes en personne? « Je suis un dieu », avait dit Syl. Un petit fragment de Dieu. La tempête finit par passer, et Kaladin ouvrit la fenêtre sur un ciel noir où quelques nuages fantomatiques reflétaient la lumière de Nomon. La tempête avait commencé quelques heures après la tombée de la nuit, mais personne ne pouvait dormir en pareil cas. Il détestait quand une tempête majeure survenait si tard. Il se sentait souvent épuisé le lendemain. La porte de la pièce latérale s'ouvrit et Dalinar en sortit, suivie par Navani, toujours aussi imposante, qui portait un grand cahier. Kaladin avait entendu parler, bien entendu, des crises qui s'emparaient du haut prince lors des tempêtes. Ses hommes étaient divisés sur le sujet. Certains pensaient que Dalinar avait peur des tempêtes majeures et que sa terreur déclenchait des convulsions. D'autres murmuraient que l'épine noire, à son âge, perdait l'esprit. Kaladin mourait d'envie de savoir ce qu'il en était réellement. Son sort, ainsi que celui de ses hommes, était lié à la santé de cet homme.
« Des chiffres, mon général ?»
demanda Kaladin en passant la tête dans la pièce pour regarder les murs. « Non, » répondit Dalinar. « Parfois, ils apparaissent juste après la tempête, » déclara Kaladin. « J'ai des hommes dans le couloir, à l'extérieur. Je préférerais que tout le monde reste ici un petit moment. » Dalinar hocha la tête. « Comme vous le souhaitez, soldat. » Kaladin se dirigea vers la sortie. Au-delà, des hommes du pont 4 et de la garde royale faisaient le guet. Kaladin salua Leyten, puis lui ordonna de surveiller le balcon. Il comptait bien attraper le spectre qui gravait ses chiffres, à supposer toutefois qu'il existe. Derrière lui, Renarin et Adeline approchèrent de leur père.
« Du nouveau ?»
questionna Renarin tout bas.
« Non, » répondit Dalinar. « La vision était une répétition d'une ancienne. Mais elles ne surviennent pas dans le même ordre que la dernière fois. » Et certaines sont nouvelles. Peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre que nous n'avons pas encore découvert.
Remarquant Kaladin, il s'interrompit, puis changea de sujet.
En tout cas, tant que nous attendons ici, peut-être pouvez-vous me donner les dernières nouvelles. Adeline, quand pouvons-nous attendre de nouveaux duels?
J'essaie, répondit Adeline en grimaçant. Je croyais que ma victoire contre Salinor en pousserait d'autres à vouloir me défier, mais ils atterrent moi.
C'est un problème, commenta Navani. Ne passais-tu pas ton temps à répéter que tout le monde voulait se battre contre toi?
C'était le cas, protesta Adeline. En tout cas, quand je ne pouvais pas livrer de duel, maintenant, chaque fois que je fais une offre, les gens traînent les pieds et détournent le regard.
As-tu essayé les gens du camp de Sadeas? S'informa le roi avec impatience.
« Non, » répondit Adeline, « mais il n'a qu'un seul autre porte-éclat en dehors de lui-même. Amaram. »
Kaladin frissonna.
« Lui, tu ne risques pas de l'affronter en duel, » ironisa Dalinar avec un petit rire.
Il s'assit sur le divan et la clarissime Navani s'installa près de lui, une main affectueuse sur son genou.
« Nous pourrions le rallier à notre camp. » Je me suis entretenu avec le clarissime Amaram.
« Vous croyez pouvoir le pousser à faire sécession ?»
demanda le roi.
« Est-ce possible ?» demanda Kaladin, surpris.
Le Paliris se tourna vers lui. Navani cligna des yeux comme si elle venait seulement de remarquer sa présence.
« Oui, bien sûr, » répondit Dalinar. « La majeure partie du territoire qu'Amaram surveille resterait à Sadeas. » Mais il pourrait ajouter ses propres terres à ma principauté, ainsi que ses éclats. En règle générale, ça nécessite un échange de territoire avec une principauté qui borde celle qu'un clarissime souhaite rejoindre.
Ça ne s'est pas produit depuis plus d'une décennie, objecta Adeline en secouant la tête.
J'y travaille, l'assura Dalinar. Mais Amaram, il cherche plutôt à nous réunir. « Sadeas et moi. Il croit que nous pourrions de nouveau nous entendre. »
Adeline ricana.
« Cette possibilité a volé en éclats le jour où Sadeas nous a trahis. »
« Voir bien avant, » rectifia Dalinar, « même si je n'en étais pas conscient. Peux-tu défier qui que ce soit d'autre, Adeline ?»«
Je vais tenter Talanor, » dit Adeline, « et ensuite Kalishor. »
« Aucun des deux n'est un porte-éclat en bonne et due forme, » déclara Navani, pensive. « Le premier n'a que la lame, le second la cuirasse. »
« Tous les vrais porte-éclats ont refusé, » répliqua Adeline, haussant les épaules. « Ces deux-là sont impatients et avides de notoriété. L'un d'entre eux acceptera peut-être. »
Kaladin croisa les bras et se radossa au mur.
« Et si vous les battez, ça ne risque pas de dissuader les autres de vous affronter ?»
« Quand je les battrai, » répondit Adeline avec un regard réprobateur vis-à-vis de la posture détendue de Kaladin,
« Père manœuvrera pour que d'autres acceptent les duels. »«
Mais il faudra bien que ça s'arrête à un moment ou à un autre, » demanda Kaladin. « Les autres hauts princes finiront bien par comprendre ce qui se passe. Ils refuseront de se laisser pousser à livrer de nouveaux duels. C'est peut-être déjà en train de se produire. C'est pour cette raison qu'ils n'acceptent pas. »
« Quelqu'un le fera bien !» insista Adeline en se redressant.
« Quand je commencerai à gagner, d'autres me verront enfin comme un véritable défi. Ils voudront se mettre eux-mêmes à l'épreuve.
Voilà qui semblait très optimiste à Kaladin.
Le capitaine Kaladin a raison, dit Dalinar.
Adoline se retourna vers son père.
Il n'est pas nécessaire de combattre tous les porte-éclats du camp, ajouta Dalinar. Nous devons mieux cibler nos efforts et te choisir des duels qui nous approcheront de notre objectif ultime.
À savoir, lança Adoline.
Saper l'influence de Sadeas, répondit Dalinar d'une voix presque contrite. Le tuer au cours d'un duel, s'il faut en arriver là. Tout le monde dans le camp sait quels sont les deux camps dans cette lutte de pouvoir. Ça ne fonctionnera pas si nous punissons tout le monde de la même manière. Nous devons montrer à ceux qui se trouvent entre les deux, ceux qui cherchent à décider qui suivre, les avantages de la confiance. La coopération lors des attaques de plateau, l'aide que les porte-éclats des uns peuvent apporter aux autres. Nous devons leur montrer ce que c'est de faire partie d'un véritable royaume.
Les autres gardèrent le silence. Le roi se détourna en secouant la tête. Il ne croyait pas, en tout cas pas pleinement, à ce que Dalinar souhaitait accomplir. Kaladin se surprit à être contrarié. Pourquoi donc ? Dalinar lui avait donné raison. Il fulmina un moment et comprit qu'il était sans doute encore perturbé qu'on ait mentionné Amaram. Le simple fait d'entendre son nom le mettait dans tous ses états. Il ne cessait de penser que quelque chose devait se produire, devait changer, à présent qu'un meurtrier se trouvait dans le camp. Pourtant, tout continuait à l'identique. C'était frustrant. Ça lui donnait des envies de cogner. Il fallait qu'il y remédie.
« Je suppose que nous avons attendu assez longtemps ?» demanda Adoline à son père. « Je peux partir ?»
Dalinar soupira et hocha la tête. Adoline ouvrit la porte et s'éloigna à grands pas. Rhénarine le suivit à un rythme plus lent, traînant la lame d'éclat avec laquelle il était encore en train de se lier, enveloppé de ses bandes protectrices. Lorsqu'ils passèrent devant le groupe de gardes que Kaladin avait posté dehors, Scar et trois autres en émergèrent pour les suivre. Kaladin les accompagna jusqu'à la porte et compta rapidement combien restait. 4 hommes en tout.
« Moash ? » demanda-t-il en le voyant bâiller. « Depuis combien de temps êtes-vous de garde aujourd'hui ?»
Moash haussa les épaules.
« Un tour de garde pour surveiller la clarissime Navani, un autre avec la garde royale. »«
Je l'ai fait travailler trop dur, » songea Kaladin, père des tempêtes, même avec les surplus de la garde cobalt que Dalinar m'envoie.
« Rentrez dormir un peu, » lui dit Kaladin.
« Vous aussi, Bizig. » Je vous ai vu de service ce matin.
Et vous ?
Demanda Moash à Kaladin.
Je vais bien.
La fulgiflamme lui permettait de rester alerte. D'accord, ce genre d'utilisation pouvait se révéler dangereux. Ça le poussait à agir, à se montrer plus impulsif. Il ignorait au juste s'il appréciait l'effet qu'elle lui faisait quand il l'utilisait en dehors du combat.
Moash haussa un sourcil.
« Vous devez être au moins aussi fatigué que moi, Cal !»«
Je rentrerai dans un moment, » assura Kaladin.
« Moash, vous devez vous reposer un peu, autrement vous deviendrez négligent. »«
Il faut que j'enchaîne 2 tours de garde, » répondit Moash en haussant les sourcils. « Du moins, si vous voulez que je m'entraîne avec la garde royale en plus de mon service de garde ordinaire. »
Kaladin pinça les lèvres. C'était effectivement important.
Moash devait apprendre à réfléchir comme un garde du corps, et la meilleure méthode consistait à le faire servir dans une équipe déjà constituée.
« Mon tour de garde ici, auprès de la garde royale, est presque terminé !» commenta Moash. « Je rentrerai après. »«
Très bien, » répondit Kaladin. « Gardez Leyten avec vous. Natam, Marthe et vous allez protéger la clarissime Navani. Je vais raccompagner Dalinar au camp et poster des gardes à sa porte. »
« Dans ce cas, vous allez dormir ?»
demanda Moash. Les autres regardèrent Kaladin. Eux aussi s'inquiétaient.
« Très bien, d'accord. » Kaladin retourna dans la pièce où Dalinar aidait Navani à se lever. Il allait la reconduire à sa porte, comme presque tous les soirs. Kaladin hésita un moment, puis s'avança vers le haut-prince.
« Mon général, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. »
« Est-ce que ça peut attendre que j'en ai fini ici ?» demanda Dalinar.
« Oui, mon général, répondit Kaladin. Je vais patienter aux portes devant le palais, puis je vous escorterai jusqu'au camp. Dalinar emmena Navani, rejoint par deux gardes, hommes de pont. Kaladin s'éloigna lui-même le long du couloir, plongé dans ses réflexions. Des serviteurs étaient déjà venus ouvrir les fenêtres du couloir, et Syl entra par l'une d'entre elles sous la forme d'un tourbillon de brume. Avec un petit rire, elle tournoya plusieurs fois autour de lui, avant de ressortir par une autre fenêtre. Elle se comportait toujours un peu plus comme une sprène lors des tempêtes majeures. L'air possédait une odeur humide et fraîche. Le monde entier semblait propre après une tempête majeure, comme récuré par la force abrasive de la nature.